voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un sujet qui intrigue régulièrement les femmes, celles qui ne veulent pas d'enfants. C'était un tabou, une rareté, c'est devenu un choix assumé, argumenté. 18% des Européennes sont sans enfants à 40 ans. Combien sont-elles à l'avoir décidé ? Pour toujours. Comment dans un pays très pro-enfant comme la France, des femmes décident de ne pas avoir d'enfants? Certaines parlent de leur couple sans enfants, d'autres de leur vie en solo, mais toutes estiment que le désir d'enfant n'est jamais venu à elles. Non pas faute de structure pour faire garder leur bébé, ni des difficultés de travailler en étant mère, comme au Japon, comme en Allemagne. Non, c'est une évidence de non-maternité qui s'impose. Alors qu'ont-elles à nous dire sur cette question et quel est le regard de la société? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Laurence Sant'Antonios.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes mère. Votre enquête, Libre à elle, le choix de ne pas être mère, aux éditions Mots Conduits. Également avec nous Charlotte Debest. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'université Paris 2 et à l'INED. Vous avez publié Le choix d'une vie sans enfant aux presses universitaires de Rennes. Vous avez interrogé d'ailleurs également des hommes. Vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Armorique. Alors bien sûr, vous prenez la parole quand vous le souhaitez. C'est comme si vous étiez dans le studio. Émilie Devienne, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Vous êtes coach. Vous avez raconté votre histoire dans Être femme sans être mère, Le choix de ne pas avoir d'enfant, qui a été publié il y a déjà pas mal de temps, en 2000. Hein.
Alors il a été publié longtemps, j'ai raconté mon histoire mais j'ai aussi mené une enquête sur ce sujet-là dans le même livre évidemment, et ce livre vient d'être réédité et j'ai découvert qu'il était considéré comme un classique maintenant.
Voilà. Et c'est alors pas beaucoup de publications sur ce sujet, néanmoins effectivement c'est un sujet qui intéresse.
À l'époque j'étais la deuxième.
Ouais. Et quant à vous les voisines, si vous n'avez pas d'enfants, par choix, appelez-nous sans tabou, les voisins vous êtes aussi concernés par la question, forcément. Aimez une femme qui ne veut pas d'enfants de vous, par exemple, est-ce que c'est possible. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour nous laisser des messages.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Eunice, une voisine à Abomey-Calavi, au Bénin, poste le message suivant. La société chez moi accepte rarement les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a celles qui sont en couple, qui n'en veulent pas, et celles qui ne sont pas en couple, parce qu'elles ne veulent pas d'enfants, précisément. C'est très difficile, nous dit Eunice, de surmonter les reproches de part et d'autre. Mirlande, en Haïti, une autre voisine qui nous dit que chez elle, une fois mariée, c'est l'unique attente de beaucoup de gens. On vous pose toujours cette question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton ventre? Allez, appelez-nous maintenant, on a envie forcément de discuter avec vous en direct. Que vous soyez une voisine ou un voisin, 33 1 84 22 71 71. Un message posté sur WhatsApp également.
J'ai choisi de ne pas être mère, ça regarde que moi. J'assume mon choix complètement parce que j'ai décidé moi-même de ne pas être mère. Donc ce n'est pas un sujet tabou.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Alors, tabou ou pas, le fait de ne pas désirer d'enfant quand on est une femme. On est en ligne avec Nelly Sanchez, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes enseignante, vous vivez en couple, vous n'avez pas d'enfant, vous avez 40 ans et vous avez accepté de figurer dans l'enquête de Laurence Sant'Antonios qui a interrogé une quarantaine de femmes. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à ne pas avoir, à ne pas vouloir d'enfant, Nelly Sanchez?
On va dire l'ensemble de ma vie. J'ai, comme beaucoup de femmes, je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir d'enfant. Ça s'est imposé toute petite.
Oui, toute petite, oui, mais à la faveur d'un événement?
Non. Je suis issue d'une famille, on va dire, classique. Un père, une mère, une sœur et des oncles, des tantes. Mais non, jamais ce désir de reproduire le schéma que j'avais sous les yeux.
C'est ça. La question que je viens de vous poser, beaucoup vous l'ont posée, mais est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans ta vie pour que tu ne souhaites pas avoir d'enfant ? C'est ça finalement, non ?
Oui, oui, les gens essaient de se rassurer en expliquant cette non-maternité par un traumatisme, par un manque, par des frustrations. Et quand on dit que non, on a eu une enfance heureuse, équilibrée, qu'on n'a manqué de rien, ça dérange encore plus.
Ça dérange. Vous vous êtes séparée d'un homme parce que vous ne vouliez pas avoir d'enfant de lui.
Oui. Disons qu'il m'a fait comprendre que nous n'avions plus rien à faire ensemble si je ne voulais pas avoir d'enfant de lui.
Oui. Et vous, vous vous disiez, finalement, il n'y avait que ça qui l'intéressait chez moi ?
Quand on est face à cette situation, effectivement, on se dit, je n'étais qu'un ventre pour lui, donc c'est aussi bien qu'on se sépare, parce que le couple aurait été fondé sur une sorte de malentendu.
Comment vous êtes perçue aujourd'hui ? En plus, vous avez une vie publique en étant enseignante dans un collège, vous avez vos collègues, vous travaillez dans un métier qui est très féminisé, hein, l'enseignement. Comment vous vous sentez perçue, Nelly ?
Par mes collègues, bien, parce que beaucoup de femmes dans le milieu enseignant n'ont pas d'enfants ou ont des enfants qui sont très grands. Ce qui les a amenés à revenir sur la maternité en discutant avec des collègues. Beaucoup vont dire que si elles avaient su, elles n'auraient pas eu d'enfants.
Ah bon ?
Oui. En discutant, beaucoup de femmes, après coup, se rendent compte qu'elles ont eu des enfants, des fois, pour de mauvaises raisons.
En fait, des femmes qui ont des enfants âgés, adultes aujourd'hui, comprennent mieux votre choix, paradoxalement.
Oui.
Dans une société où le droit à l'enfant est devenu un combat politique avec le débat sur la procréation médicalement assistée, vous reconnaissez être en décalage quand même ?
Oui, je l'assume totalement.
Enfin, en décalage ou simplement très minoritaire, je ne sais pas.
Alors, est-ce que nous sommes minoritaires ou est-ce que celles qui ne veulent pas avoir d'enfants cèdent à un moment donné pour des raisons X ou Y ? Ou ne se l'avoue pas ou refuse de formuler ce non-désir d'enfant.
Enfin, vous ne faites pas de prosélytisme de votre côté.
Non. Les femmes avec qui j'aborde ce sujet, je leur dis juste de suivre leur instinct, de suivre ce qu'elles ont envie. Envie de faire de leur vie.
C'est pas facile de suivre son instinct par définition. Aujourd'hui, vous vivez avec un homme qui a deux filles. Vous êtes belle-mère malgré vous, finalement ?
Alors, je ne me considère pas vraiment comme une belle-mère. Je me considère comme la compagne de l'homme avec qui je suis. Je suis à l'écoute de ses filles. Ça se passe très, 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 très bien. Et j'ai pas le désir de m'imposer comme une figure maternelle. Elles ont ce qu'il faut dans leur entourage. Et je pense que ce refus de prendre la place de quelqu'un d'autre pour me prouver quelque chose ou pour leur prouver quelque chose, c'est que ça fonctionne très bien.
Eh ben merci en tout cas, Nelly Sanchez, de votre franchise, des interrogations aussi que vous posez sur notre société avec vos choix, qui bien sûr vous appartiennent. Merci d'avoir été en ligne avec nous et très bonne journée. Bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On parle de ces femmes qui ne veulent pas d'enfants.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Émilie de Vienne.
Oui, Emmanuel.
On vous renvoie une image un peu comme ce qu'a décrit Nelly Sanchez, vous qui n'avez pas d'enfant.
Je buvais ses paroles. Alors, ne serait-ce que votre question quand vous lui avez demandé, mais est-ce à la faveur d'un événement qu'on ne demande pas à un couple qui a des enfants ? Est-ce à la faveur d'un événement que... Donc, effectivement, on a toujours cette obligation, ou en tout cas, on est fortement invité à se justifier. Ça, c'est une première chose que je trouvais vraiment... Voilà. Effectivement, ce qu'elle disait aussi, ce que disait Nelly, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir été torturé, malmené, dans la précarité. Là. pour ne pas vouloir d'enfants, on peut être dans une famille entre guillemets normale, si tant est que ça existe, mais en tout cas une famille disons plus classique, et pour autant ne pas éprouver ce désir, avec quand même une pondération, et nos sous-titres d'ailleurs me semblent intéressants à cet égard, il y a ne pas être mère, ne pas vouloir d'enfants, ne pas avoir d'enfants, ça, tout ça, ça ne renvoie, à mon avis, ça ne renvoie pas à la même représentation de ce que va être la maternité.
Trop de négatif, c'est ça aussi.
C'est souvent dans le ne pas, et puis avoir un enfant, c'est pas la même chose que devenir mère, on est déjà sur autre chose, donc ça je trouve ça vraiment intéressant dans ce que vous expliquez. Et effectivement, en plus, alors dans le cas de Nelly, si j'ai bien compris, elle est pseudo-belle-mère sans être belle-mère, tout en étant... Bon, ça, c'est un autre sujet, on reviendra pour les familles recomposées.
Vous aussi, vous avez élevé
voilà.
Deux belles-filles.
Et j'allais y venir, ça dépend aussi de la façon dont cette recomposition s'est organisée et des modes de garde. Alors, je ne sais pas, dans le cas de Nelly, combien de fois elle a ses beaux-enfants, ou pseudo... En tout cas, les enfants de son mari ou de son conjoint. Moi, dans mon cas, c'était une garde alternée et ponctuellement, ce qui s'est transformé en garde quand même plus que alternée. Donc une forte présence de ma part sans le désir du tout de remplacer leur mère. Il y a une mère et c'était fait pour ça, normalement. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai par contre pris soin des filles pendant une bonne vingtaine d'années. Quoi.
Mais vous l'avez mal vécu, cette maternité forcée, enfin, par procuration.
Ça dépendait très sincèrement, et elles le savent. Alors maintenant, j'ai du 27 et du 31. Ouais. Elles le savent par moment, oui. Tout simplement parce que je disais, mais moi, j'ai pas signé pour ça, quoi. Ouais. Donc, tous les ennuis, les scolarités, les crises, les adolescence, les machins. Comme en plus, moi, j'avais eu une enfance extrêmement linéaire et j'ai pas causé de problème. Quand j'ai découvert que c'était possible qu'un ado soit un ado, ouais, ça m'a semblé compliqué.
Et ça vous a encore moins donné le désir d'enfant ?
Alors ça,
le
ça m'a conforté absolument,
comme ça,
mais ça m'a conforté dans le désir de pas avoir d'enfants, pas tant parce qu'elles ont fait des âneries d'ados comme des millions d'ados font pareil, c'est pas ça, mais plus pour des raisons, et d'ailleurs dans le même bâtiment que vous, c'est France 24, j'avais été sollicitée sur le même sujet, pour des raisons écologiques. Donc dans mon cas, même petite, alors je le nommais pas évidemment en disant pour des raisons écologiques, je n'aurais pas d'enfants, cher papa, chère maman, mais j'avais déjà cette idée qu'elle est pas si grande que ça notre Terre, on est déjà nombreux. Qu'est-ce que ça va devenir ? Regardez là, on se dit déjà, on est 7 milliards grâce à vous,
et
on
demi,
le sait.
Et demi.
7 milliards et demi de voisins, il va falloir changer l'intitulé de l'émission. Et je voyais des chiffres, en 2050, on va être 10 milliards. Actuellement, il nous faudrait une planète et demi, voire 0.6, pour tenir le mode de vie que nous avons tout pays confondu. Actuellement, dans nos pays occidentaux, en tout cas, depuis le mois d'août, on vit au-dessus de nos moyens. Mais enfin, il faut se rendre compte de ça. Moi, quand j'ai un poulet à servir à table, j'invite pas 10 personnes.
Il y a des femmes qui font des enfants pendant les conflits, pendant les guerres,
oui,
hein, néanmoins.
Bah, disons que ça, on est bien d'accord qu'il y ait des enfants dans une idée aussi de, je dirais, de maintien d'une certaine proportion. Ça me semble normal. Mais une surpopulation nous met en danger. Et ça, c'est aussi pour moi un véritable sujet.
Voilà pour les témoignages. Alors, Laurence Sant'Antonio, je vais vous donner aussi la parole, Charlotte de Best. Mais,
je souhaiterais.
Oui, allez-y, Charlotte de Best, allez-y.
Non, déjà, quand dans le témoignage de Nelly, ou même plus globalement, peut-être rappeler les chiffres, hein, quand même, en France, on est sur 5% de femmes qui peuvent être considérées comme ne voulant pas d'enfants. Donc peut-être que, bien évidemment, on parle de plus en plus de ce sujet, mais ça reste quand même, malgré tout, une minorité. Alors après, voilà, on est quand même sur 5%, donc la majorité des femmes, pour diverses raisons, hein, bien sûr, il y a une pression sociale à concevoir très forte qui pèse notamment sur les femmes, mais n'empêche que c'est encore aujourd'hui une minorité avec un certain tabou, malgré tout, où en effet, là, je rejoins tout à fait Émilie de Vienne, il s'agit constamment pour les femmes, notamment, de devoir se justifier, puisque ce qui est l'évidence, c'est de désirer un enfant, notamment du côté des femmes. Ce qui me semble aussi intéressant sur la question de la responsabilité, enfin, ou le fait d'être belle-mère, ou je sais pas, faussement belle-mère, je sais pas, c'est justement ce que j'ai montré dans mes travaux, c'est ce qui empêche de devenir parent, homme et femme, mais aussi du côté des femmes, bien sûr, c'est justement cette responsabilité à devenir mère, c'est-à-dire une responsabilité existentielle. On fait le choix de mettre au monde un nouvel être humain, et la responsabilité éducative qui va avec, ouais, ce qui du coup est enlevée, notamment la responsabilité existentielle, c'est-à-dire on a choisi, surtout avec les moyens de contraception et éventuellement l'IVG, de mettre au monde cet enfant qui aurait pu ne pas naître. Mmh. Et c'est ça qui peut-être est enlevé pour ces femmes qui élèvent à moitié, un petit peu, ouais, voilà, en tout cas se préoccupent des enfants du compagnon.
Laurence Sant'Antonios, vous êtes mère de deux enfants et pourtant vous êtes partie dans une interrogation sur la maternité un peu particulière avec votre enquête Libre à elle. Vous avez interrogé une quarantaine de femmes âgées de 36 à 50 ans,
oui,
enfin, pas des gamines.
Non, plutôt de cet ordre-là, même si j'ai vu des femmes un petit, carrément plus jeune, 30 ans, et plus vieille d'avant la pilule, je dirais.
Alors, qui sont ces femmes? Il y a des femmes, là, on a entendu des témoignages de femmes qui sont très claires dans leur position, mais il y a aussi des femmes qui sont plus ambivalentes dans leur relation à la maternité.
Oui, c'est même sans doute la majorité. Moi, je n'ai pas fait une étude aussi rigoureuse que Charlotte Debesse, qui est sociologue. Hein. J'ai confronté mon expérience de mère à une quarantaine de femmes, avec beaucoup de passion d'ailleurs, puisque moi-même, en effet, étant mère de deux garçons à presque 20 ans de distance et les ayant passionnément désirés, je me posais la question, pourquoi est-ce que d'autres femmes ne le désirent pas? Qu'est-ce que c'est que cet instinct maternel qu'on appelle à tort instinct maternel? Quelle est la part du biologique et du culturel? Est-ce que 30 ans plus tard, j'aurais eu des enfants? Peut-être pas. Donc, ça m'a passionnément intéressé de rencontrer cette quarantaine de femmes. Et pour répondre plus à votre question, c'est vrai, et comme disait Charlotte Debesse, c'est quand même une minorité qui est très déterminée à ne pas en avoir, même si c'est pas scientifique, mais j'ai pas fait ça avec des questionnaires. Sur la quarantaine de femmes, seules, je dirais, une dizaine, un quart, avaient une grande détermination depuis l'enfance à ne pas avoir d'enfants. Elle disait, comme Simone de Beauvoir, de mémoire, je n'ai pas l'impression d'aller contre ma nature en n'ayant pas d'enfant.
C'est ça. C'est voilà. Qui le revendique comme une aspiration personnelle.
Une aspiration, pas seulement un choix, une aspiration.
Et un projet de vie.
Pour être bien avec elle-même, absolument. Donc ça, voilà, les autres, qui sont en effet quand même la majorité, ont une beaucoup plus grande ambivalence. D'ailleurs, on les rencontre toutes autour de nous. Mais une ambivalence dans la mesure où elles n'ont pas décidé depuis toute petite de ne pas en avoir, mais peu à peu, les circonstances de la vie, privées, professionnelles, les modes de vie de plus en plus instables, la difficulté de trouver du travail, fait qu'elles reportent, elles reportent, elles reportent, puis au bout du compte, elles n'en ont pas, mais au fond, elles n'en ont d'une part, voilà, ces 40-là, il n'y en a pas une qui avait un désir physique, donc elles n'ont pas le désir, et d'autre part, elles se disent, eh ben, au fond, si j'ai pas eu d'enfant, c'est peut-être aussi pas par hasard, et je revendique et j'assume, et elles sont bien dans leur basket, comme on dit, elles sont épanouies. C'est la différence avec hier, ça, ouais. Je pense.
Mais elle n'aurait peut-être pas répondu non, je ne veux pas d'enfant dans les enquêtes et dans les 5%.
C'est vraiment un sujet encore qui reste tabou, et à part des gens comme nous, des femmes comme nous qui l'assumons, et donc on nous t'amenait à en parler, beaucoup de femmes, et vous le voyez probablement.
Je me mettrai pas forcément dans le nous, enfin, je sais pas ce que vous dites dans le nous, mais.
Nous, les femmes qui n'avons pas eu d'enfants et qui réfléchissons à la question.
Charlotte Debesse est sociologue, donc extérieure.
Voilà. Mais alors, nous, les femmes qui n'avons pas d'enfants par choix. D'accord. Voilà. Et donc, oui, sujet tabou d'une part. Et regardez, je le vois quand même, comme disait Manuel, ça fait un certain nombre d'années que ce livre est publié, plus de 10 exactement. Et quand régulièrement des journalistes me disent auriez-vous des personnes qui accepteraient de témoigner avec photo, quand ce serait de la presse écrite ou à la télé, eh bien, oups, c'est la poudre d'escampette. Je n'ai plus personne, ça reste un sujet tabou.
Tout à fait. Parce que pourquoi, dans le fond, Charlotte Debesse, c'est quoi le soupçon qui pèse sur ces femmes qui ne veulent pas d'enfants?
Elle déroge un petit peu aux normes de genre, c'est-à-dire que malgré toutes les évolutions de la société actuelle occidentale, une femme, certes, elle peut travailler, elle peut faire des études, elle peut faire plein de choses, mais elle a aussi quand même ce désir d'enfant qui est censé être ancré en elle. Donc ça déroge quand même aux normes de genre et ça déroge et donc ça dérange l'ordre social et les rapports hommes-femmes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je ne sais plus quel sociologue dit ça, mais elles sont dans une atopie parfaite. C'est-à-dire on ne sait pas où les placer. Ces femmes qui revendiquent le fait de ne pas vouloir d'enfants parce qu'elles ne sont pas entièrement dans la représentation, dans la construction féminine qui veut qu'une part quand même de l'identité féminine soit la maternité. Ce qui n'est pas le cas du côté des hommes. Être papa rend pas viril.
Plus prosaïquement, on dit aussi tout simplement elles ont loupé quelque chose, elles ont raté leur vie quelque part. Elles ont,
oui, parce que c'est dans l'identité
ça
féminine
rassure,
que d'avoir des enfants.
C'est ça. Puis on revient à ce que vous disiez au tout début de l'interview avec notamment Nelly qui disait, oui, les gens ont besoin de se rassurer en imaginant qu'on n'en a pas pour une raison.
Sociologiquement, c'est quand même des femmes qui ont choisi leur métier, qui sont indépendantes, qui sont pas en bas de l'échelle sociale. C'est ces femmes qui déclarent plus ou moins clairement que le désir d'enfant n'est pas parvenu jusqu'à elles.
Oui, tendanciellement, c'est en effet, statistiquement, c'est plutôt les femmes les plus diplômées. Mais comme on le remarque aussi sur le nombre d'enfants, hein, c'est plutôt les femmes les plus diplômées qui ont le moins d'enfants par rapport aux femmes les moins diplômées. Donc c'est des tendances, c'est des statistiques. Voilà. Donc en effet, il y a cette notion plutôt, le fait de pouvoir s'épanouir, se valoriser aussi par soi-même sans le besoin d'être mère, qui fait qu'on les retrouve notamment du côté des femmes les plus diplômées. Puisque être mère, c'est aussi avoir un statut social, avoir des droits qui y sont associés, des droits au niveau de la sécurité sociale, au niveau de l'État, une certaine protection. Donc c'est aussi, voilà, c'est notamment pour ça que les femmes les moins diplômées sont celles qui ont le plus d'enfants ou celles qui sont le moins pas mères. Du fait notamment de ce rôle social qui est associé à la maternité et qui permet d'être valorisé par la société. Ce qui est du coup très dur pour les femmes qui ne sont pas mères et notamment celles qui disent ne pas vouloir l'être, c'est qu'elles ont à elles-mêmes construire leur statut social, la valorisation d'elles, de leurs proches, sans ce statut.
Alors on parle de ces femmes en France, mais qu'en est-il de cette pression sociale ailleurs dans le monde, en Europe? On en discute, vous restez avec nous et bien sûr vous pouvez nous téléphoner. On parle de ces femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. 33 1 84 22 71 71.
De voisins, c'est sur RFI.
Anthony Hamilton, Freedom, chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et on s'interroge sur ces femmes qui ne désirent pas d'enfants, quel que soit leur âge. Elles expliquent en toute liberté pourquoi d'ailleurs elles ne souhaitent pas avoir d'enfants. On a entendu des témoignages. Émilie de Vienne, vous êtes avec nous, vous avez écrit sur le sujet parce que vous êtes concernée et vous faites partie de ces femmes qui n'a jamais eu le désir d'enfants. Charlotte Debest, vous êtes sociologue, vous avez travaillé sur ce sujet. D'ailleurs, il faut préciser qu'il y a très très peu de travaux, voire pas du tout de travaux universitaires sur ces questions-là. Et il faut dire aussi que c'est une catégorie très minoritaire hein, de femmes qui assument de manière très ouverte, très transparente, le fait de ne pas avoir envie d'enfants. Et Laurence Santantonios, vous êtes journaliste et vous aussi, vous avez recueilli des témoignages. Est-ce que vous diriez, Charlotte Debest, que la France est un pays où il existe une vraie pression à la parentalité par rapport à d'autres pays d'Europe? Il faut dire aussi qu'on a encore, même si c'est un petit peu en baisse, on a encore le taux de fécondité le plus important d'Europe.
Oui, tout à fait. Oui, en France, je pense comme en Europe. Enfin, mais il y a en effet une pression sociale à concevoir très forte, notamment, il me semble, du fait que justement les politiques publiques, les politiques familiales et sociales, depuis longtemps, favorisent l'articulation travail-famille. Et il y a vraiment cette idée que tout est fait pour que les femmes puissent avoir des enfants tout en étant relativement indépendantes d'un point de vue du travail et économiquement.
Donc pas d'excuses, pas de voilà, raison
c'est ça.
Finalement.
C'est ça. Donc ça renforce, c'est tout à fait, ça renforce cette idée que bah, y a aucune raison, aucune excuse pour ne pas faire d'enfants, puisque tout est fait pour que ça se passe bien. On fait comme si tout était fait pour que ça se passe bien, que les femmes aient des enfants, ce qui, par exemple, n'est pas le cas de l'Allemagne jusque-là, en tout cas, qui permettait d'expliquer le fait qu'il soit 1,4 enfants par femme, donc très bas. Voilà, et ce qui expliquait notamment parce qu'il y avait assez peu de modes de garde pour les enfants. Mais en France, voilà, il y a vraiment ce côté, il n'y a pas d'explication.
Laurence Sant'Antonios, c'est vrai qu'en Allemagne, en Italie, on peut assumer plus facilement de ne pas avoir d'enfants. Aux États-Unis également, il y a les couples sans enfants s'expriment très, très librement, racontent comment leur projet de vie ne comporte pas un projet d'enfantement.
Oui, je ne connais pas assez bien la situation des États-Unis, mais c'est vrai qu'ils semblent plus organisés et avoir des associations où ils s'expriment plus précisément. En Allemagne, c'est effectivement, comme me disait Charlotte de Besse tout à l'heure, c'était un des pays où la fécondité est très basse. D'ailleurs, elle remonte un petit peu pour des raisons à la fois historiques et puis des infrastructures. Mais là-bas, et d'ailleurs, il y a pas mal de livres sur le sujet, c'est beaucoup plus, en effet, accepté, revendiqué, discuté. C'est pas tabou. Quelle était votre question ?
La question, c'était ouais. la différence, en fait, avec d'autres pays. Il y a eu un débat récemment aussi, il y a quelques mois, en Israël, alors, avec un ouvrage qui a dérangé également sur cette question-là.
Oui, en Israël, c'est très intéressant parce que c'est un pays, en revanche, qui a un taux de fécondité très haut. On est à presque à 3,5, j'ai plus de mémoire, 3 enfants et demi par femme. Il faut savoir aussi que là-bas, la pression, la religion, la société est énorme. Qu'il y a des banques de sperme, j'allais dire presque à tous les coins de rue, qu'on peut congeler ses ovocytes depuis longtemps, c'est légal, il y a une pression très forte. Et il se trouve qu'en effet, il y a une sociologue qui s'appelle Ornette Donat, qui a écrit une thèse, qui est devenue maintenant un livre, traduit dans plusieurs langues, mais pas en français, d'après ma connaissance, qui, elle, ne veut pas d'enfants, et qui a interrogé des mères qui ont dit qu'elles regrettaient d'avoir eu des enfants, non pas qu'elle ne les aimait pas, non pas qu'elle ne s'occupait pas bien d'eux, et je pense comme n'importe quelle autre mère, elles étaient des bonnes mères, mais finalement, elles auraient préféré ne pas en avoir. Donc c'est vrai que c'est un débat
Émilie Devienne, qu'en est-il de la pression familiale ? Est-ce que c'est compliqué d'expliquer à ses propres parents qu'on ne veut pas se reproduire ?
Alors, je vais vous y revenir. Par contre, je boude depuis tout à l'heure. Est-ce que je voulais vraiment revenir au moins sur un point ? Ok, il y a des modes de garde, des trucs et des machins. Formidable, politique nataliste, merveilleux. Sauf que ça dépend du type de mère que l'on veut devenir. Et ça, on n'a pas abordé. Et si faire un enfant, ça consiste à peine enceinte, à savoir où on va le caser dans une crèche, dans un truc, dans un machin, pour repartir travailler, où il va se faire des heures inconcevables. Il est loin des 35 heures, le pauvre bébé. D'un endroit à un autre.
Donc bousculé. Vous êtes en train de nous dire que les femmes qui ont des enfants sont forcément des mauvaises mères, celles qui travaillent.
Ce serait très réducteur. Je vous connais moins réductrice que ça, Emmanuel. Non, ce que je dis juste, c'est questionnons-nous aussi en amont sur le type de parent que l'on veut être et qui, du coup, va conditionner aussi notre choix et notre réflexion autour
d'en avoir ou pas. Si on veut travailler tout en s'occupant de son enfant toute la journée, par définition, ce n'est pas possible.
C'est ça. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir qui est qu'est-ce que je fais et comment, comment s'articulent tous ces temps-là, mais en ayant le souci de ce que cet enfant va faire, blackbouler d'un endroit à l'autre. Ça, c'était un point de vue. Deuxième point de vue, je vais répondre à votre question maintenant.
Et désolé, juste là-dessus,
les modes de garde.
Sur les modes de garde, où justement tout ce qu'on dit là, ce qui continue de m'étonner, c'est à quel point on ne parle pas des hommes. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelle mère on veut devenir, comment on va articuler famille, travail, la crèche, etc. Mais je pense qu'on pourra se sortir de ce débat-là à partir du moment où vraiment on fera aussi rentrer la question des hommes qui sont pères.
Rassurez-vous, j'avais prévu de vous poser cette question. Alors, on va terminer sur la pression familiale qui pèse d'abord sur les femmes. Hein, il faut bien le reconnaître quand même.
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une famille qui savait que j'avais un caractère bien trempé et qui n'a pas vraiment... opposé. Tant que j'étais en mode potentiellement reproductif, j'ai eu droit à « bon, mais ça va venir, tu vas rencontrer l'homme de ta vie » ou « tu l'as rencontré, mais faut... » Bon, bref, j'ai eu... Mais tout le monde était relativement tolérant. Et la ménopause aidant, ça y est, je suis tranquille, maintenant ça va. Mais j'ai eu la chance, effectivement, de ne subir aucune pression de la part de ma famille.
Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de toutes les femmes, Laurence Sant'Antonios, non ?
La
pression familiale, la pression des parents.
Bien sûr, elle est très importante. Hein, le nombre de... toutes les femmes que j'ai rencontrées, même si elles-mêmes assumaient tout à fait et se sentaient bien, elles, évidemment, et leurs proches, « Ah, mais c'est pour quand ? Ah, mais bientôt ? Ah, mais tu vas le regretter ?» Et puis alors, dans les médias aussi, il y a une image des stars avec leurs enfants ou étant enceinte elle-même qui donne envie.
L'enfant valorise, en fait.
L'enfant valorise, ouais. La mère est...
C'est un peu une sorte de mise en scène de la maternité, je trouve. Ouais. Je me souviens, j'ai été journaliste assez longtemps, et à l'époque, au Québec, il y avait un magazine qui s'appelait 9 mois, et je faisais de la pige, bon, dans ce magazine. Et je propose comme sujet tout ce qu'on ne vous dit pas, que vous aimeriez savoir et que vous n'osez pas non plus poser comme question à votre grande sœur. Bon, parce que j'avais plein d'amis qui me racontaient, tu sais, il m'arrive, alors, je sais pas, il y a une espèce de rayure là sur le ventre, je sais pas quoi, enfin plein de trucs.
Les vergetures.
Pas les vergetures, c'est une espèce de traces, je sais pas quoi, sur le ventre. Bon, bref, formidable. Et donc, j'annonce mon sujet, toute fière de moi, la rédaction qui me regarde horrifiée et le commercial qui me dit, tu sais combien ça nous laisse, parents, nous. Et là, il me liste un paquet de produits, d'huile, de crème, de machin. Donc, bref, j'ai été virée du magazine, ça a été réglé. Je me suis dit, sinon, mon rapport avec les bébés, c'est pas si simple que ça. Mais effectivement, il y a un tabou, il y a une mise en scène de la maternité où on oublie le backstage.
Alors, Charlotte de Besse, vous souhaitiez qu'on parle des hommes. Justement, je leur donne le numéro de téléphone du standard parce qu'on va accueillir un voisin. 33 1 84 22 71 71. Richard nous appelle de Cotonou. Bonjour, Richard.
Bonjour.
Richard, vous avez 34 ans, vous êtes marié. Pourquoi vous souhaitez intervenir à l'antenne ?
Merci. Bonjour, cher voisin. En fait, ma femme, je suis marié. Ma femme, elle a 32 ans.
Oui.
Il y a de cela un an, on s'est marié il y a un an. Bien avant cela, il n'y avait pas trop de, comment je le dirais, trop de pression, en fait. Mm-hmm. Mais après le mariage, il était venu que... Bon, elle me disait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'elle se sentait d'abord stressée au départ.
Oui.
Elle était très stressée, mais je lui demandais pourquoi. Elle me dit non, pas une histoire d'enfant, parce que d'abord, ses copines au boulot, autour d'elle, se sont mariées, elles ont eu d'enfants, mais au finish, elles se sont retrouvées divorcées, oui, avec les enfants à la charge.
Oui.
Le quotidien de ces femmes l'ont amenée à faire cette vie. Ce choix de vie, pardon. Donc, elle ne me l'a pas imposé, elle me l'a expliqué.
Oui.
J'ai compris cette pression, j'ai compris comment elle vivait, parce que quand chaque fois je lui disais, tu sais quoi, je veux un enfant, tu sais, je voudrais que nous ayons un enfant, tout le temps, elle est stressée. Donc, on était obligé d'aller à l'hôpital, on a rencontré un médecin qui disait qu'elle a une pression hormonale et tout ce qui va, et voilà, maintenant, il va falloir que nous décidions. Donc, c'est vrai, on a pris un rendez-vous avec un psychologue, mais on n'a pas été.
Ah oui.
Au fil du temps...
Parce qu'elle n'a pas envie d'aller parler à un psychologue, c'est ça ?
Voilà. Mmh. Oui, ben, on est resté, on a discuté ensemble. On est resté tout le temps à discuter ensemble et tout, donc...
Et vous dites maintenant, il va falloir qu'on décide, sous-entendu, d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Votre femme a 32 ans, vous en avez 34.
Oui.
Vous avez encore quelques années pour réfléchir.
Pour tout clore simplement, puisque nous sommes mariés devant l'église catholique, donc
oui.
Moi je suis resté sur ce thème que le prêtre a dit, vous acceptez pour le meilleur et le pire. Alors si c'est peut-être le pire, alors je l'accepte.
Oui.
Alors si c'est le meilleur aussi, je l'accepte. Donc nous surmontons cette épreuve, parce que moi je parlerai d'épreuve au prime abord, parce que je ne l'avais pas accepté, c'était un choc pour moi au départ. Mais au finish, je l'ai compris, parce que ceux qui sont, j'ai des collègues au boulot aussi qui ont opté pour ce choix de ne pas avoir d'enfants.
Ah bon?
Pour les pressions du boulot, pour les pressions de... Oui, bah oui, voilà, maintenant j'ai au minimum...
Vous avez des collègues autour de vous, Richard, à Cotonou, qui disent, en tant qu'homme, moi je veux pas d'enfants, ou en tant que femme?
Oui, j'ai deux collègues hommes qui ne veulent pas. J'ai trois collègues femmes aussi qui ne veulent pas d'enfants. Voilà. Donc, la réponse, c'est quoi? Ils ne veulent pas de pression. Ils ne veulent plus sentir des déceptions, savoir ce qui ne va pas, ne faire subir les affres d'une séparation des parents et autres et tout. Donc, voilà.
Ça vous rend malheureux, votre situation familiale à l'heure actuelle, Richard?
Au départ, oui, mais bon, nous avions des activités qui nous permettaient maintenant de surmonter. Donc, on n'a pas. En fait, on ne se donne plus trop le temps de penser à ça, en fait. On ne se donne plus trop le temps. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est vrai que j'ai ce tic à 10% parfois de me dire ben, pourquoi ? Ben, je me dis ok, d'accord, c'est un choix aussi. Alors, je la suis là-dedans.
Ouais, c'est un choix, c'est son choix, mais ce n'est pas votre choix, Richard, si je comprends bien. Hein.
Oui, c'est son choix, c'est pas mon choix, mais bon, je me suis dit, ben pourquoi on est mariés, c'est pour qu'on se sente à l'aise. Ouais. Alors si elle se sentait à l'aise là-dedans, ben je la suis. C'est vrai que je parlerai de notre population, de notre entourage.
Merci Richard de nous avoir appelé en direct de Cotonou. C'est vrai que c'est pas simple à vivre pour les hommes. Charlotte de Best, alors vous avez interrogé des hommes dans votre enquête sur le non-désir d'enfant?
Oui, tout à fait. J'ai interrogé un certain nombre d'hommes. Pour rebondir là quand même sur le dernier témoignage, ce qui me semble aussi intéressant, c'est que vraiment ces personnes volontairement sans enfants, notamment que j'ai interrogé donc là plus par entretien au-delà des statistiques, contrairement à ce qu'on peut parfois leur envoyer, c'est-à-dire je sais pas, qu'ils n'aiment pas les enfants, qu'ils sont immatures, égoïstes, c'est justement des personnes qui se font une très haute idée de ce que c'est être parent, avec des exigences, avec le fait que voilà, tous les choix ensuite qu'on va faire, vont avoir des impacts sur cet enfant. Donc c'est vraiment des personnes qui en fait sont très lucides sur la difficulté d'être parent et sur les conséquences de faire ce choix, parce qu'après on est responsable de ce choix pour toute la vie. Et il me semble que c'est ça aussi, c'est ces femmes qui disent mais si on se sépare voilà, les souffrances que ça va procurer à cet enfant. Il y a vraiment cette
idée
qui me semble
intéressante. Ceci dit, un homme qui déclare qu'il ne veut pas d'enfant, il n'est pas du tout perçu de la même façon qu'une femme qui déclare qu'elle ne veut pas d'enfant, hein.
Non, bien sûr que non.
Il ne suscite pas l'interrogation.
On est sur des archaïsmes.
C'est pas perçu comme une anomalie, un homme qui veut pas d'enfant.
Non, mais d'ailleurs excusez-moi, oui, pardon, je sais pas qui veut prendre.
Émilie de Vienne, allez-y.
Non, pardon. Bravo, j'applaudis des deux mains effectivement cette idée de. On a une très haute idée de la parentalité et on y réfléchit peut-être trop d'ailleurs. Peu importe. Oui. J'ai mon amie d'enfance qui a fait beaucoup d'enfants. Enfin, je trouve, elle en a fait 4 et elle me dit toujours arrête de te faire des nœuds dans le cerveau. Bon, ok, de toute façon ils sont faits, donc c'est réglé. Mais cette haute idée effectivement de la parentalité, je trouve que c'est... et de se dire on va être responsable toute notre vie. Merci de l'avoir redit, ça me semble très important et peut-être que si on n'en a pas, c'est précisément parce qu'on les aime trop, les enfants. Et l'autre chose donc, sur laquelle je voulais revenir par rapport aux hommes, c'est effectivement que déjà, nous les femmes, il y a cet archaïsme que la femme est là pour reproduire, etc. Et les archaïsmes, on le sait, ont la vie dure. Et deuxième chose, l'homme a plus de temps pour se ressaisir et trouver des ventres féconds, donc ça c'est réglé pour lui. Et puis, moi, j'ai le souvenir de mon mari quand j'étais en âge d'avoir éventuellement des enfants, voir les filles qui étaient tentées et qui me disaient pourquoi pas. Et en fait, il me disait, mais comment je vais te prouver que je t'aime sans te faire un enfant? Et j'avais trouvé ça extrêmement beau et il a accepté de témoigner dans le livre. Et avec ce, un petit peu ce que disait Richard, et j'ai trouvé ça très joli, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, je vais me ranger à ton avis. Mais si j'avais dit, quand il était encore temps, écoute chérie, pourquoi pas, on tente le coup. Il aurait accepté.
On a entendu le témoignage d'un homme malheureux néanmoins, hein, Richard,
tout
qui nous a appelé de Cotonou. Vous pouvez continuer de nous téléphoner, surtout si vous êtes une voisine, bien sûr. 33 1 84 22 71 71. Alors comment se construit un couple aussi sans enfants? C'est la question qu'on va se poser dans quelques instants.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI. Are we It's time to subside. I'm you. Oh, we'll never die. I think we could do anything. Our wings are broke, but we'll keep on gliding.
broke, but we'll keep on lighting. We choose. We choose. I'm you. Oh, we'll never die. I think we could do anything. Our wings are broke, but we'll keep on gliding.
C'est Her, We Choose, chez 7 milliards de voisins. On est en direct et on s'interroge avec des femmes dans le studio sur le non-désir de maternité. Un pourcentage significatif en Europe de femmes déclarent ne pas souhaiter avoir d'enfants et n'ont pas d'enfants d'ailleurs, y compris quand on les interroge à un âge avancé où leur décision est bien évidemment irrévocable. Je voudrais déjà qu'on laisse un auditeur qui a posté une question intéressante sur WhatsApp, on l'écoute et puis après on revient en studio.
Bonjour 7 milliards voisins et voisines, on est ensemble, c'est Mamadou Diallo de Dakar. Une dame, si elle arrive à 45 ans, est-ce qu'elle ne va pas regretter?
La question du regret, c'est une question qui se pose souvent, ou en tout cas qui est posée par l'entourage, par le miroir de la société à ces femmes, Laurence Sant'Antonios.
Oui, ces femmes que j'ai vues, bien sûr, m'ont dit, on me dit souvent, ah, tu vas le regretter. D'abord, elles disent, bah oui, mais il n'y a que moi, ça me regarde. Moi, j'ai bien sûr réfléchi à tout ça, donc je sais, donc j'assume. Et puis certaines disent aussi qu'elles ne se privent pas d'envisager une adoption, un parrainage, s'occuper d'enfants plus tard, si jamais elles en avaient besoin. Mais voilà, c'est vrai que ce regret, elles en ont conscience et elles y réfléchissent.
Oui, j'allais juste te dire, il y a deux choses, je trouve ça effectivement très intéressant. On voit, et d'ailleurs avec le cas de Nelly qui est institutrice, que beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut dire qu'on les aime autrement et qu'on n'éprouve pas le besoin d'en faire des produits maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Et je dirais alors là, pour le coup, des belles-mères, qu'il faut vraiment aimer les enfants pour aimer ceux de son compagnon ad vitam aeternam. Donc ça, je pense que c'est quand même important de l'entendre. Et puis l'autre chose, effectivement, sur ce regret, il y a aussi le contre-courant. Et je me souviens d'une journaliste qui m'avait posé la question, qui me disait, mais à Noël, vous risquez d'être toute seule. Et je lui dis, mais attendez, d'abord, je ne fais pas des enfants pour ne pas être toute seule à Noël. Deux, combien de familles connaissent le stress de se dire, et on est 48 heures, puis après on s'en va parce que les sujets chauds remontent à la surface.
Néanmoins, c'est vrai que la question de la vieillesse pose question.
Mais aujourd'hui, les enfants sont dans le monde entier. Il y en a un qui va être en Australie, l'autre va être en Californie. Il n'y en aura pas un à Bécon-les-Bruyères à côté de chez nous. Et encore une fois, on n'est pas là pour charger l'enfant de prendre soin de nous plus tard, en tout cas dans notre société occidentale.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment...
Se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI.
Et la planète se parle.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 chez 7 milliards de voisins. Joseph est en ligne avec nous. D'Abidjan. Non, c'est joli son témoignage, on l'a pas au téléphone. Il nous dit, les femmes que je connais à Abidjan autour de la trentaine et qui ne veulent pas d'enfants ne veulent pas déformer leur corps. Voilà. C'était le point de vue de Joseph, ou en tout cas ce dont il témoigne. Ça peut sembler étonnant, effectivement, dans certains milieux, dans des capitales africaines, où aujourd'hui, des femmes qui travaillent, qui sont beaucoup sur Internet et qui n'acceptent pas forcément les stéréotypes qui leur sont proposés. Ça vous étonne ou pas, Émilie Devienne ?
Non, ça me réjouit qu'on se pose des questions. Après que même la femme a réfléchi et réfléchit et fasse des enfants, moi, pas de souci. C'est surtout de se donner le luxe de réfléchir et de ne pas considérer, encore une fois, ces archaïsmes comme pris pour acquis. Et rien que ça, j'applaudis des deux mains. Peu importe, il ne s'agit pas, et vous en parliez plus tôt, de faire du prosélytisme. Jamais, mon propos n'a jamais été là. Il a beaucoup et toujours été, avant de faire un enfant, réfléchissez et réfléchissez vraiment, parce que c'est lui qui va en pâtir. Mmh. C'est pas vous, c'est lui qui va en pâtir, et lui, il n'a rien demandé.
Comment se construit le couple sans enfant, Charlotte de Best ?
Mais d'abord sur le rapport au corps, peut-être là pour rebondir sur la question, on peut aussi imaginer, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on peut se dire bon, c'est particulièrement égoïste ces femmes qui disent qu'elles veulent pas que leur corps se déforme, etc. Mais on est quand même aussi dans une société où justement on est censé être dans une certaine beauté du corps, des canons de beauté, des critères de beauté, une maîtrise de son corps. Et je pense pas que par exemple la grossesse ou l'accouchement, on soit précisément dans le contrôle de son corps. Donc c'est pas complètement non plus étonnant d'avoir de pouvoir entendre ce type d'argument aujourd'hui qui est finalement qui va complètement dans la ligne actuelle de maîtriser son corps, le contrôler, être complètement maître et maîtresse de ses affects, etc. Donc
Le couple, est-ce que l'absence d'enfant ça donne une relation de couple plus simple, puisqu'on sait que statistiquement les enfants sont au cœur des conflits dans les couples, beaucoup, pas seulement mais en partie
au cœur des conflits, puis aussi peut-être au cœur du fait que les couples tiennent, ou qu'en tout cas on ne sépare pas avant tel âge de l'enfant. Enfin, donc je pense vraiment qu'il y a l'envers des conflits. Comment se construit un couple sans enfant ? Non,
est-ce qu'il y a une relation qui est plus simple ? Émilie de Vienne, vous
dites non, c'est-à-dire qu'il y a une véritable exigence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le prétexte de dire on reste pour les enfants. Là, il n'y a pas le choix. Donc, si on tient, et si quand il y a des moments de tension, il y a au contraire une véritable exigence de poser les dossiers, de traiter les sujets, si je puis dire. Et on n'est pas là, on ne remplit pas le silence à table en parlant du bulletin scolaire du petit dernier et de l'orthodontie de l'ado. Donc, il faut que le couple tienne sur des valeurs très fortes, autres que l'excuse de on a les enfants.
Et sur des activités, il n'y a pas les enfants pour combler tous ces moments de la vie quotidienne, en fait.
Absolument. Et ça rajoute d'ailleurs une exigence, parce que moi, j'ai vu, alors dans mon cas, mais pas que, des personnes nous dire, mais enfin, vous ne devriez pas vous disputer, vous n'avez aucune raison de vous disputer au motif qu'il n'y a pas les enfants. Mais ça ne suffit pas. Comme les femmes qui n'ont pas d'enfants, desquelles on attend qu'elles aient une carrière pharaonique. On peut aussi vouloir simplement ne pas avoir d'enfants et pour autant ne pas être PDG du consortium international global de la planète entière.
Je dirais même que parfois, la présence d'enfants complique les choses, au contraire. Oui, j'ai beaucoup d'exemples de couples d'amis sans enfants où le couple tient beaucoup plus longtemps.
Qu'est-ce que vous avez appris en étant, comme vous le disiez au début de l'émission, Laurence Santotonios, vous avez été mère, vous avez passionnément désiré avoir des enfants, vous êtes mère de deux enfants qui sont adultes. Qu'est-ce que vous avez appris avec cette enquête sur les femmes qui n'ont pas d'enfants ?
J'ai appris énormément. D'abord, c'est quelque chose... J'ai toujours eu une attirance, voire une admiration pour ces femmes qui ne cèdent pas à la norme, qui ont une grande liberté. Donc, ça m'a beaucoup apporté à moi-même.
Merci en tout cas à toutes les trois. Alors, Émilie de Vienne, vous avez publié Être femme sans être mère, le choix de ne pas avoir d'enfant. Laurence Santotonio, c'est Libre à elle, le choix de ne pas être mère aux éditions Mots Conduits. Et Charlotte de Best, le choix d'une vie sans enfant aux presses universitaires de France. Et merci aussi à l'équipe de France Bleu Armorique qui a permis la liaison avec vous, Charlotte de Best. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Nicolas Benita, Raphaël Lazizi. Et bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast, comme chaque jour, sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique Magazine. Et puis, bien sûr, nous contacter sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur les grandes figures féminines historiques du continent africain. Ce sont des femmes hors du commun, reines ou femmes du peuple. Elles ont cette particularité, parce qu'elles étaient femmes, d'avoir été totalement enfouies par l'histoire. Pour en parler, on recevra Ophélie Rion, une historienne spécialiste des femmes militantes, et Sylvia Serbin, métisse, à qui ses professeurs d'histoire disaient « Les femmes n'ont rien apporté à l'histoire du continent ». Comme une revanche, elle a publié des années plus tard 400 pages sur ces reines d'Afrique, mais aussi sur des héroïnes de la diaspora noire. À demain.
Tu connais Mondoblog ?